Mesdames, messieurs, bonjour. C'est la rentrée du carnet de correspondance sur CFM Radio. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année scolaire 2023-2024. Car depuis lundi, les élèves du primaire et du secondaire ont repris les chemins de l'école. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la rentrée au collège. Il est toujours fidèle au poste et toujours aussi passionné par les questions relatives à l'enseignement et tout ce que cela comporte. Jean-Marc Robin, le principal du collège Valserou de Cordes, est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jack.
Alors c'est reparti pour une saison, pour emprunter le vocabulaire des séries télé, avec un script, on va l'appeler comme ça, qui a été signé par Pape Ndiaye, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, mais qui vous a fait passer une circulaire de rentrée, c'est ainsi que cela s'appelle, le 6 juillet dernier. C'était donc avant les vacances d'été, un document de 8 pages qui met l'accent sur quoi en particulier, Jean-Marc ?
Alors, sur plusieurs points, en fait, le titre de la circulaire de rentrée, c'est « Une école qui instruit, émancipe et protège ». Alors, si tu le veux bien, on va essayer de reprendre ces trois éléments. Donc là, je le dis à nos éditeurs, on va parler surtout du collège. Dans cette circulaire, il y a d'autres choses pour l'école primaire, les lycées professionnels et les lycées, mais nous, on va se focaliser sur le collège. Alors, s'agissant d'une école qui instruit, on va
donc
parler...
Donc ça, c'est le premier point.
C'est le premier point.
Qui instruit. On dirait qu'il y a besoin de le rappeler, de le marteler même d'ailleurs.
Oui. Donc, une école qui instruit. Alors, si tu veux, en termes de nouveauté, la nouveauté, c'est que justement, on veut donner une priorité aux savoirs fondamentaux. Donc, le ministre a pris une décision, les ministres, puisque maintenant, ils se succèdent. C'est concrètement, on va remplacer une heure de technologie en classe de 6e par une heure de soutien et d'approfondissement en français et en mathématiques. Alors la nouveauté, c'est donc qu'on fait faire un petit peu plus de français et de mathématiques, mais surtout qu'on va pouvoir faire intervenir, parce qu'ils vont être rémunérés pour ça, dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte enseignant, les professeurs des écoles volontaires. Alors c'est sur la base du volontariat. Nous, au Collège de Cordes, on aura la chance d'avoir un collègue, Monsieur Dubois, qui va intervenir aussi avec nos collègues le mercredi matin. Et ça, c'est très bien, ça permettra de faire le lien, tu vois, avec le premier degré. La deuxième nouveauté, le dispositif existait déjà, ça s'appelait « devoirs faits ». Donc les élèves sont encadrés par des professeurs ou par des assistants d'éducation pour faire leurs devoirs.
Au collège.
Au collège. Mm-hmm. Donc c'était sur la base du volontariat, maintenant c'est vraiment inscrit dans leur emploi du temps. C'est obligatoire, tu ne peux pas te défiler, tu vas avoir une heure ou deux heures dans ton emploi du temps de devoirs faits en petits groupes. Et donc c'est vraiment pour aider les élèves, notamment de 6e. Après, on en avait parlé ici, moi je t'avais dit et qu'on donnait beaucoup trop de fiches, d'exercices à trous, de QCM. Et là, je suis très content de lire dans la circulaire de rentrée qu'on incite les équipes pédagogiques à développer le travail d'écriture. Tu vois, de faire des... Alors évidemment, en fonction du niveau des élèves, 6e, 5e, 4e, 3e, mais vraiment les engager dans une activité d'écriture régulière pour que justement ils développent cette compétence, parce que c'est toujours la même histoire. Plus tu écris, plus tu développes ton habileté à écrire. Donc, alors, c'est pas simplement dans le domaine de l'écriture, c'est aussi dans le domaine de la lecture et du calcul. Donc là, il y a vraiment cette idée que, et je rappellerai aux enseignants, qu'il faut vraiment faire rédiger régulièrement les élèves. Ça, c'est très, très important si on veut qu'ils maîtrisent l'expression écrite. Nouveauté, du côté de la classe de 6e aussi, c'est qu'on avait un dispositif qu'on appelait PIX. Alors, PIX, c'est une espèce de plateforme qui s'adresse à tout le monde, d'ailleurs, je le dis, si les adultes veulent valider des compétences informatiques pour un CV ou se tester. Ils vont sur cette plateforme.
PIX.
PIX. Et donc, ce dispositif PIX, cette plateforme informatique qui permettait d'évaluer et puis de se former aux compétences numériques, va être développé en classe de 6e. Avant, c'était que le 5e, 4e et 3e. Donc, on va le développer en classe de 6e. Ça, c'est très bien parce qu'on a remarqué dans les enquêtes internationales que les jeunes Français qui utilisent beaucoup leur téléphone portable sont pas forcément très habiles avec l'outil numérique. Alors, tu sais, quand on parle de numérique, il faut bien distinguer ce qu'on appelle la pensée informatique. C'est par exemple tout ce qui concerne les algorithmes, comprendre le code informatique, être capable de faire du code. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire toutes les habiletés avec son ordinateur. Tu vois, par exemple, envoyer un document, envoyer un mail, être capable de travailler avec deux fichiers ouverts. Enfin, voilà. Donc, et là, c'est vrai que... on le sait, il y a des inégalités entre les enfants, entre les adolescents. Donc, c'est bien que nous, on mette l'accent sur le fait de mettre tout le monde à niveau. Parce que ça, c'est clair que dans une société numérique, tout aujourd'hui est informatisé. Le dossier de l'élève, les impôts, tout passe par le numérique. C'est bien qu'on développe ça. Après, bon, tu ne seras pas surpris, Année olympique 2024.
Donc, ça nous touche aussi, même si c'est à Paris, les Jeux olympiques.
Voilà. Donc, on va essayer d'encourager la pratique sportive. Bon, ça, c'est très bien parce que, on le disait tout à l'heure, hein, faut pas opposer le corps et l'esprit. Hein, je veux dire, ce qu'on a constaté, c'est que quand les élèves font du sport, c'est bon aussi pour les apprentissages académiques. Il n'y a pas d'opposition. Je dirais même que c'est bien parce que justement, l'élève, il peut développer des habiletés. Et puis, ça lui fait du bien au corps aussi. Donc voilà, développer tout ce qui est autour de la pratique sportive. Donc ça, c'est bien engagé. La pratique artistique, donc je le disais tout à l'heure, on va avoir un peu plus de moyens. Notre budget va augmenter concrètement, alors je donne un ordre de grandeur, hein, de 50% pour les établissements scolaires. Hein. Donc ça va être conséquent, 25 euros par élève inscrit. Et on va pouvoir aller voir des spectacles, faire venir des artistes, développer des pratiques artistiques avec des ateliers. Et ça, c'est très chouette et c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut souligner qu'il y a un effort de l'État qui est quand même assez conséquent, hein, en fonction de la taille du collège. Hein, mais pour notre collège, ça sera plus de 6 000 euros quand même. Hein. Concrètement, on va passer de 3 000 à 6 000. C'est pas rien pour chez l'établissement que je suis. Enfin, tu le sais, hein, une école qui instruit, c'est aussi une école qui est capable de maintenir une continuité pédagogique. C'est-à-dire que quand les enseignants sont absents, il faut qu'on arrive à mieux se mobiliser en interne pour remplacer les professeurs absents. Alors, on pourra le faire soit... Alors, ça sera sur la base du volontariat... soit donc en mobilisant les enseignants qui souhaitent faire des remplacements. Alors, je le dis, hein, le prof de maths qui remplace le prof d'anglais, il fait des maths, il ne fait pas de l'anglais, hein, bien entendu, ça va de soi. Soit en mobilisant aussi les instituts d'éducation à partir du moment où ils ont un niveau de formation qui est suffisant, alors pour faire des activités qui n'est pas d'enseignement, hein, mais qui est de l'encadrement pédagogique, par exemple, d'encadrer les élèves sur des séquences informatiques lorsque les professeurs ont donné du travail. Tu vois, pour que ce ne soit pas du temps perdu.
Donc, l'école qui instruit, on voit très bien qu'il y a donc des moyens humains, financiers, matériels qui sont mis de manière supplémentaire. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Là n'est pas la question tout de suite, mais est-ce qu'avec tout cela, les heures pédagogiques, on va dire hebdomadaires, restent les mêmes, plus ou moins? Ça n'augmente pas, là?
En tout cas, pour le collège, ça ne bouge pas. On est toujours sur 26 heures.
D'accord.
Hein, donc après, les élèves peuvent choisir aussi de faire une option. Par exemple, nous, en classe de 6e, au collège de Cordes, on a la chance de proposer la bilingue allemande, donc... à eux de voir s'ils veulent commencer la deuxième langue vivante dès la 6e. Et puis après, il y a les options sur les autres. Voilà. Après, ça dépend un peu du projet d'établissement aussi. Voilà. Okay. Non, on reste toujours sur la même maquette, hein, de 26 heures, hein, par semaine, avec un petit peu plus si tu fais des options.
D'accord. Hein, tout simplement. OK. Donc, premier point de cette circulaire de rentrée, donc qu'on est en train de résumer, hein,
oui, c'est ça,
sous forme de chapitre, hein, c'est donc l'école qui instruit. Là, on passe au deuxième point, c'est l'école qui émancipe. Et à ce niveau, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change?
Alors, en fait, c'est à la fois des choses qu'on va consolider. On est plus dans la consolidation, hein, de ce côté-là, parce que ça veut dire qu'on avait engagé un certain nombre de chantiers qu'on va vouloir renforcer. Alors, je vais prendre un premier chantier qui paraît tout à fait important, c'est l'éducation aux médias. Hein, là, vraiment, il y a la volonté, hein, de mieux éduquer aux médias. Alors, tu vois, par exemple, en faisant des ateliers autour de la presse, des fake news, de bien faire comprendre aux élèves quels sont les droits et les devoirs qu'ils ont dans l'espace numérique, de bien utiliser les réseaux sociaux. Parce que tu le sais, hein, les réseaux sociaux, ça peut être à la fois synonyme de parfois de cyberharcèlement, et ça, c'est terrible, et en même temps, ça peut être aussi beaucoup d'entraide. Moi, je sais que, par exemple, au collège, il y a des élèves qui ont monté des groupes WhatsApp, ils s'échangent les devoirs, etc. Moi, je les félicite, ça, c'est bien. Alors maintenant, il faut que ce groupe WhatsApp, ce soit pour des façons, utilisé de façon positive. Donc, les réseaux sociaux, il ne faut pas les stigmatiser. Hein. Ça peut permettre de faire de la veille, ça peut permettre de faire de l'entraide. Je sais qu'à l'université, par exemple, les étudiants, ils ont tous un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp, ils s'entraident beaucoup. Donc, vraiment, sensibiliser les élèves sur l'éducation aux médias, ça, c'est une priorité qu'on va renforcer. Hein, et d'ailleurs, hein, j'en profite pour te dire qu'on compte sur toi.
Ouais, parce que je vois dans cette circulaire aussi que chaque établissement doit créer un média à part entière.
Ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que l'éducation aux médias, c'est bien de faire des cours et c'est très bien, mais c'est bien aussi d'apprendre par la pratique en faisant. Donc, en fait, il y a de plusieurs années l'obligation pour chaque établissement d'avoir un média. Alors après, chaque établissement choisit. Tu vois, ça peut être une web radio, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être aussi un petit journal, un petit bulletin. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et en tout cas, nous, au Collège de Cordes, on va essayer de développer, devine, la radio.
Ah ben, ça tombe bien.
Mais pas que la radio. Peut-être on essaiera de faire aussi, mais dans un second temps, on va commencer les choses doucement. Hein. Peut-être tu sais qu'on a une chaîne YouTube aussi.
Oui.
Donc on va s'équiper pour voir si les élèves peuvent faire des petits films. Parce qu'effectivement, quand on fait de la radio, bah, faut se pencher sur les sources, il faut préparer l'émission. Quand on fait de la vidéo, faut se pencher sur le droit à l'image. C'est ça, c'est des vraies questions concrètes. Et c'est ce qu'on appelle learning by doing, c'est-à-dire en apprenant, en faisant, c'est très très bien aussi. Après, je te disais qu'en matière d'une école qui émancipe, on est vraiment dans la consolidation de ce qui se fait. Et c'est vrai que ce que souhaite le ministère, donc là je parle pour tous les collèges, on est bien d'accord, c'est de développer l'éducation à la vie sexuelle et affective. Alors en fait, tous les établissements ont l'obligation de mettre par niveau, de mettre en place 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Honnêtement, ce n'est pas toujours réalisé. Alors, ce n'est pas que là, on ne veut pas. C'est que parfois, c'est des contraintes d'emploi du temps. Mais là, c'est clair qu'il y a des combats à mener. Alors, les combats, ils concernent quoi ? Ils concernent tout ce qui est la lutte contre les discriminations. Je pense, par exemple, à l'homophobie, qui fait, par exemple, beaucoup de mal à certains élèves. Je pense aussi à toutes les discriminations envers les LGBT. Je pense aussi au sexisme. Et on nous a demandé de mettre l'accent dans cette circulaire de rentrée sur la question du consentement des filles. C'est vrai qu'au niveau du collège, tu sais, c'est aussi les premiers amours. On peut avoir ce qu'on appelle des baisers forcés. On a parlé dans l'actualité avec un certain...
le président de la Fédération de football espagnol.
Voilà. C'est vrai qu'il a tout faux. Je veux dire, on n'a pas forcé un copain, une copine à faire un baiser. Ça doit être un acte consenti. Alors, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et on sait que chaque année, des filles, mais parfois des garçons, sont victimes de ça. Et donc, cela, c'est de bien rappeler la notion de consentement. Voilà. Donc, bien sûr, on a le droit d'être amoureux, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a un certain consentement. Et ça, c'est bien d'en parler très tôt. C'est d'en parler très tôt aux élèves.
Permets-moi de t'interrompre à ce moment, parce que je pense à ces parents qui sont peut-être en moindre proportion aujourd'hui, mais qui se disent, mais est-ce que c'est le rôle de l'école ? Moi, je veux que mon enfant aille à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ne lui apprenez pas les autres choses, quoi.
Alors, le rôle de l'école, c'est de construire l'autonomie de l'enfant. C'est pas, alors bien sûr, on ne va pas, faire une éducation, religieuse, culturelle, on est d'accord, mais expliquer les choses, par exemple, expliquer le consentement, c'est participer à l'égalité entre les sexes. Expliquer que quand on insulte un camarade avec des propos homophobes, eh bien, c'est un délit. Donc, on reste dans le domaine du droit, de l'éducation à la loi. Et c'est clair qu'il y a des valeurs. L'école de la République, c'est pas n'importe quelle école. Donc nous, on est organisé autour de faire partager aux élèves des valeurs de liberté, d'égalité entre les sexes. Et ça, ça se discute pas. Ça, je veux dire, c'est quand on rentre dans un établissement scolaire républicain, il y a un règlement intérieur, c'est mis noir sur blanc, égalité entre les sexes. Et c'est vrai que il y avait une belle affiche du ministère, alors pas forcément très belle sur le plan graphique, mais très belle dans le message, c'était « Ici, à l'école, on a le droit d'être soi ». Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Et ouvrir les élèves à la tolérance. Je veux dire, le domaine de la sexualité, ça relève aussi de l'intimité de chaque élève. Je veux dire, les familles, elles ont un rôle d'éducation, mais elles ne sont pas propriétaires des enfants. Les enfants sont des sujets de droit. Je veux dire, les parents ont aussi des devoirs vis-à-vis de leur enfant, de bien les traiter, de respecter leur identité, de respecter leur intimité aussi. Et ça, tous les parents le savent. Le rôle de l'école, c'est de bien faire intégrer aux élèves que nos enfants, on va parler d'enfants adolescents, ils ont aussi des droits, y compris quand ils sont à l'école, mais y compris dans la sphère familiale, le droit à l'intimité.
Et cette émancipation, elle passe donc par une éducation à la vie sexuelle et affective, absolument, comme tu viens de nous le rappeler, une éducation aux médias pour naviguer au mieux dans le flot et le flux d'informations qui nous arrivent aujourd'hui. Mais ça passe aussi par un parcours à venir un peu plus densifié dès la classe de 5e maintenant.
Oui, alors le parcours à venir, c'est notre jargon à nous pour désigner l'éducation à l'orientation. Donc effectivement, une école qui émancipe, c'est une école qui se fixe comme ambition aussi que les élèves ne soient pas... sur des stéréotypes autour des métiers. Tu vois, par exemple, moi, je ne sais pas, je suis une fille, je veux devenir mécanicienne auto, pourquoi il y aurait un phénomène d'autocensure ? Ou, je ne sais pas, un garçon qui a envie de faire les métiers de l'esthétique, pourquoi pas ? C'est d'expliquer aux élèves que ce monde masculin-féminin, c'est un monde qui est très normatif et qui parfois limite les possibilités. Tu vois, par exemple, sur la question du chômage des hommes et des femmes, souvent, on a pu constater en France et dans de nombreux pays que les femmes avaient un taux de chômage supérieur aux hommes, alors que les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Elles font leur parcours scolaire plus long. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que l'éventail des métiers que peuvent faire les filles, c'est toujours autour des services.
Ouais,
c'est assez restreint. Mm-hmm. Secteur tertiaire, secteur des services, santé, éducation, aide à la personne, commerce, etc. Et alors que les garçons, ça va dans tous les sens. Hein, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, les services. Et du coup, en termes de débouchés, tu vois, par exemple, on manque de main-d'œuvre très qualifiée dans le domaine de l'industrie. Ben, c'est pas dans l'industrie que s'orientent, hein, voilà, je dirais naturellement, les filles. Mmh. Donc déjà, être attentif à ça et expliquer aux filles qu'il faut qu'elles ouvrent leur éventail de métiers. Alors, l'expliquer aussi aux garçons qu'il ne faut pas qu'ils interdisent certains métiers.
Mmh. C'est l'idée. Et ça va passer concrètement par quoi, alors, vous concernant, là, au niveau du collège ?
Alors, nous, ça va passer par des petits ateliers qui vont être mis en place par les professeurs principaux. Ça peut être aussi mis en place par, tu sais, nous, au collège de Cordes, bah, tu le sais, on fait un forum des métiers, des visites d'entreprise, rencontrer des professionnels. L'idée, voilà, c'est de casser les stéréotypes de genre autour des métiers. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, le métier de pilote d'avion, bah, pas très longtemps, c'était un métier masculin. Le métier de médecin, par exemple.
Oui.
Bah, aujourd'hui, grâce à l'école, il faut le dire, hein, bah, aujourd'hui, la plupart des médecins qui sortent formés, ce sont des filles. Tu vois, le métier de magistrat, pendant très longtemps, bah, c'était un métier masculin, un métier d'autorité, de pouvoir, de prestige. Et bah, aujourd'hui, la plupart des magistrats sont des magistrates. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je l'avais déjà dit ici, mais tu vois, par exemple, quand on choisit son orientation, on ne choisit pas par hasard. Par exemple, si tu as ton papa qui est, ou ta maman, hein, qui est commerçant, qui est chef d'entreprise, tu vas avoir peut-être ce goût pour l'entreprise qui va diffuser en toi.
Ouais, ça influence un peu. Hein.
Voilà, ça influence un peu. Donc déjà, par exemple, autour de la création d'entreprise, dire que la création d'entreprise, ben, si on a une bonne idée, si on a un peu de ressources, si on est très motivé, ben, c'est des choses qui sont possibles, même si on vient d'un métier où... papa est fonctionnaire ou papa est salarié très classique et on s'autorise pas. Mais les choses changent. Hein. Moi, je constate que les choses changent et qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer leur entreprise et c'est une bonne chose parce que c'est un des parcours possibles.
Ils veulent pas tous être youtubeurs, quoi.
Oui, heureusement pour nous.
On peut aussi parler d'une forme de démocratie participative qui s'invite aussi au collège. On est toujours dans le chapitre de l'émancipation et de cette circulaire de rentrée au collège. Et dans ce champ, on parle de l'engagement des collégiens qui doit être un peu plus important. Cela va passer par quoi ?
Alors, si tu veux, le premier rôle de l'école, c'est de former des citoyens. Donc un citoyen, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui prend la parole. C'est quelqu'un qui s'exprime. Qui donne son point de vue, qui est en relation avec ceux qui détiennent une forme d'autorité ou de pouvoir. Donc l'idée, c'est d'essayer... Alors c'est vrai qu'au collège, les élèves sont un peu jeunes, hein, c'est pas toujours très simple pour eux pour prendre la parole, de promouvoir notamment une instance qu'on appelle le conseil de la vie collégienne, et puis aussi toutes les actions qui peuvent être conduites par les éco-délégués. L'idée, et même moi je vois au collège de Cordes, même si je suis très sensible à cette question qu'on appelle la démocratie collégienne ou lycéenne, je me dis, bon... L'année dernière, si je fais le bilan, tu as réuni quoi, deux fois le conseil de la vie collégienne, c'est pas assez. On aurait dû faire un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'après, on est pris dans l'actualité de plein de choses. Mais il faut vraiment qu'on arrive à associer un peu davantage nos élèves, qu'ils puissent dire leurs mots. Mmh. Hein, c'est très important. Et qu'ils se sentent respectés dans leurs paroles. Et qu'on puisse aussi, avec eux, construire des micro-projets. Leur dire, bah, tiens, vous aviez cette idée... Je ne sais pas, organiser une fête ou une journée des sports ou bien acheter tel type de matériel, eh bien, on va le faire. Comme ça, ça vient crédibiliser aussi, je dirais, la parole de ceux qui détiennent l'autorité et donner confiance. Hein, c'est-à-dire que quand je parle, ma parole ne tombe pas dans un précipice ou dans un pot vide. Donc ça, c'est vraiment important. Tu sais qu'il y a une grande défiance des citoyens en ce moment vis-à-vis de la démocratie. Et c'est vrai, et en particulier la démocratie représentative. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut alors, on le fait à travers les élections des délégués de classe, les élections du conseil de la vie collégienne. Mais c'est important de socialiser les élèves à cette vie démocratique. Et d'ailleurs, on note, la recherche l'indique, que quand les élèves, par exemple, s'engagent dans leur collège ou dans leur lycée ou dans leur université, après, ils s'engagent dans la cité, ils prennent des responsabilités.
Beaucoup plus impliqués.
Voilà. Quels que soient les milieux sociaux. Hein, tu vois, c'est pas une question de « mon père a été élu », etc.
Une école qui instruit, une école qui émancipe, une école aussi qui protège. Hein, c'est le troisième point que nous allons aborder avec toi, Jean-Marc Robin, de cette circulaire de rentrée dans le carnet de correspondance. Mais avant cela, on va écouter un peu de musique. Voici les Insatisfaits par Holidays.
Les Insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite. Nous sommes les laissés bien trop vite. Nous sommes les vacances ratées. Nous sommes les amours avortés. sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés.
Satisfait par le groupe Holidays sur CFM Radio. Carnet de correspondance, la suite, toujours en compagnie de Jean-Marc Roubin. On résume la circulaire de rentrée qu'ont reçue tous les établissements, que ce soit du primaire, du secondaire, juste avant de partir en vacances, histoire de digérer tout cela. Mais aujourd'hui, on se focalise sur ce qui se passe ou ce qui va se passer au niveau des collèges. Alors, en première partie d'émission, nous avons parlé déjà de deux points très importants. Une école qui instruit, une école qui émancipe aussi. Voilà les deux premiers points que nous avons abordés. Maintenant, nous allons parler de la protection que confère l'école, parce que c'est aussi un lieu où on doit se sentir en sécurité, en confiance aussi. Et par rapport à cela, Jean-Marc, qu'est-ce qui a été préconisé par cette circulaire de rentrée? Qu'est-ce qui doit être implémenté dès là, les prochains jours?
Alors en fait, tu le sais, le ministre, les ministres, on se sont donné une priorité, c'est la prévention du harcèlement. On le sait, au cours de leur carrière scolaire, on a concrètement un élève sur 10 qui est victime de harcèlement, plus ou moins. Mais 1 sur 10, c'est quand même assez énorme. Et je rappelle qu'il y a 12 millions d'élèves, donc tu vois l'ampleur quand même. Donc l'idée, c'est de développer un dispositif qui a été mis en place dans les établissements. Nous, on a commencé à le mettre en place au Collège de Cordes. Mais là, maintenant, il va être généralisé à l'ensemble des établissements scolaires, y compris les lycées d'ailleurs. Je le note, le ministre le rappelait hier soir, qui souhaitait que le dispositif phare, ça veut dire prévention du harcèlement, Donc concrètement, il s'agit de faire quoi? D'abord, de sensibiliser les élèves, de vraiment faire passer l'information sur les numéros verts, ce qu'est le harcèlement, que c'est un délit, parler du cyberharcèlement. Donc ça, on le fait régulièrement. Là, l'idée, c'est aussi de les associer de façon plus pratique en s'appuyant sur des élèves volontaires qui vont devenir des ambassadeurs de prévention du harcèlement. C'est-à-dire que leur rôle, c'est de, si jamais ils ont connaissance d'une situation de harcèlement, ce sera d'en parler au conseiller principal d'éducation, aux professeurs principaux, etc. On pourra aussi développer tout ce qui est autour de la médiation entre pairs. Nous, en tout cas, c'est une piste qu'on souhaite développer au Collège de Cordes. Et puis après, il y a l'idée de développer une méthode qu'on appelle la méthode PICAS. C'est le nom de son inventeur, la méthode de la préoccupation partagée. C'est l'idée, quand on sent qu'on est sur une affaire qui ressemble à du harcèlement, pour prévenir le harcèlement, en fait, on fait un travail d'entretien avec la victime. Et puis avec aussi l'élève qui est entre guillemets, qui est dans une situation de harceleur, en quelque sorte. Tu vois, de façon de déminer, de faire ce travail de conscientisation du côté de l'élève qui pourrait être conduit à harceler un camarade. Alors c'est honnêtement, sur la question du harcèlement, tu sais, c'est jamais simple, parce que dans une cour de récréation, que ce soit à l'école primaire ou que ce soit au collège ou même au lycée, tu sais que les relations, parfois, elles sont tendues et on a beaucoup de micro-conflits. Donc, c'est vrai que nous, il faut qu'on aide aussi les élèves à dire, ça, je dirais, c'est une embrouille classique, entre guillemets, ça peut se régler tout de suite. Mais s'il y a répétition, tu vois, le harcèlement, c'est quoi? C'est une situation qui se répète dans le temps, dans une certaine durée. Et puis, c'est une situation où tu as une rupture d'égalité. Tu en as un qui prend, qui domine l'autre, qui va en quelque sorte la servir, qui va imposer sa volonté. Alors, ça peut être fait par un élève ou par un groupe d'élèves, et ça, c'est totalement insupportable, puisque le rôle de l'école, c'est d'éduquer à la non-violence, au dialogue, et d'expliquer aux élèves que les différends, il faut les régler grâce à la parole. Mmh. Hein, je veux dire, nous, on est des êtres humains, et on peut justement régler nos problèmes par rapport à la parole.
Et tout ne se passe plus qu'à l'école aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux qui pouvaient être un avantage pour l'entraide entre, et la solidarité entre élèves. Mais c'est aujourd'hui aussi beaucoup par les réseaux sociaux que se fait le harcèlement.
Ah oui, alors ça, c'est comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça peut être à la fois source d'une grande solidarité, d'une grande ouverture, et puis la pire des choses quand il y a du cyberharcèlement. Donc là, le ministère a décidé, disons, de taper un peu du poing sur la table. Alors, je ne parle pas pour les établissements du second degré, qui ont collège et lycée, qui ont la possibilité de réunir un conseil de discipline. Tu sais qu'il n'y a pas de conseil de discipline à l'école primaire. En revanche, là, c'est clair qu'à l'école primaire, ben, s'il faut qu'un élève, je dirais, harceleur, si la situation est bien confirmée, ben, l'élève harceleur pourra être obligé, contraint de quitter l'établissement, mmh. enfin de quitter l'école primaire. Je pense que c'est pas mal. Je pense aussi qu'il faut vraiment que les parents soient aussi un peu plus au fait de ça, qu'on forme un peu plus les parents, qu'on les informe un petit peu plus. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de faire dans tous les établissements scolaires. Alors, une école qui protège, c'est une école qui protège de la violence. Ça me semble effectivement tout à fait fondamental. Mais une école qui protège, alors là, ça, c'est nouveau. Donc, on va voir comment ça se met en place. Hein, donc, je ne peux pas t'en parler plus que ça. C'est que je trouve que c'est une bonne chose. On va obliger chaque établissement à avoir un protocole relatif à la santé mentale des élèves. On a vraiment des élèves qui sont en grande souffrance. On a pu s'en rendre compte après le Covid, mmh. hein, qui pour qui vraiment il y a un besoin, une nécessité d'un accompagnement psychologique. Et tu sais que le président de la République, enfin, et les ministres de la Santé ont souhaité qu'il y ait un parcours qu'on appelle le parcours psy, où le psychologue désormais s'est remboursé. C'est avant, les psychologues ne sont pas des médecins, ce sont des experts, des spécialistes. Mais donc là, il y a un certain nombre de séances qui peuvent être remboursées. Donc l'idée, c'est de former les enseignants, les personnels à identifier les élèves qui vont mal, où il y a un problème de santé mentale, et de les orienter vers les bons spécialistes pour qu'un traitement se mette en place assez rapidement. Parce que la santé mentale des élèves, ben effectivement, il faut qu'on la prenne en charge en termes de repérage. Mmh. Voilà. Donc nous, on a la chance dans les établissements scolaires d'avoir des infirmières, des médecins scolaires, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Et on va être formé à identifier les élèves qui vont mal, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Donc j'attends de voir comment ça va se développer, mais voilà une bonne idée quand même.
Ouais, donc ça conclut un peu la feuille de route hein, que vous avez reçue en résumé.
C'est ça.
Normalement, il fait 8 pages. Bon, là, on a résumé tout cela en 3 chapitres.
Voilà. Concerne pas que le collège, hein, ouais, il y a aussi le lycée, ouais. L'école primaire. C'est vraiment une feuille de route. En fait, chaque année, le ministre, il écrit aux cadres, aux enseignants, aux chefs d'établissement pour dire voilà les grandes pistes. Mm-hmm. Bon, on est toujours autour des mêmes choses, hein, c'est-à-dire essayer de faire une école meilleure, que ce soit dans le domaine de l'instruction, la transmission des savoirs savants, ou que ce soit dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire le vivre ensemble, la fraternité, faire vivre les valeurs de la République.
Et comme il y a eu un changement de ministre là pendant les vacances, et que l'on sait que peut-être parmi tous les ministères qui existent, celui où chaque ministre a envie de toujours laisser sa petite trace, sa petite réforme, c'est l'éducation nationale. Donc là, il y a un nouveau ministre, donc c'est clair que le collège du 21e siècle sera aussi peut-être remodelé par Gabriel Attal, et je pense que vous vous y préparez aussi à ça, non?
En fait, Jean-Michel Blanquer à réformer le lycée, on sait qu'il y a des ajustements qui vont avoir lieu par rapport aux examens, c'est clair qu'il y aura une réflexion qui va être engagée sur le collège. Alors en fait, si tu veux, il y a un gros débat qui traverse la communauté éducative, hein, je veux dire les professionnels, c'est de savoir, est-ce qu'on fait vraiment une école du socle, c'est-à-dire qu'on relie fortement le premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires et le collège, avec autour d'un socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Voilà, on raccroche ces deux wagons. Ou est-ce qu'on continue sur cette idée que le collège, finalement, c'est un petit lycée, quoi, hein, ouais, ça tourne ouais, comme ouais. un petit lycée. Donc ça, ce débat, il n'est toujours pas tranché. Hein, en fait, si tu penches du côté petit lycée, tu vas mettre l'accent sur les savoirs académiques. sur la partie orientation, sur la partie aussi un peu sélection. Si tu penches du côté du socle, moi c'est plutôt mon point de vue personnel, tu vas mettre l'accent sur la partie intégration, sur la partie éducation aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que les savoirs académiques ne sont pas au centre de l'école, mais ça veut dire qu'on fait aussi autre chose. Nous, on s'appelle, on n'est plus le ministère de l'instruction publique, on est le ministère de l'éducation. Et au niveau des élèves de 11-15 ans, honnêtement, une partie du boulot, c'est un vrai travail d'éducation. Hein. Mmh. Voilà, on est à la fois des professeurs, mais aussi des éducateurs. Et c'est pas... C'est aussi un joli mot, hein, éduquer. D'ailleurs, nous, on s'adresse à des élèves. Donc, il faut vraiment prendre ce mot tel quel. Ça veut dire qu'on est là pour les élever. Pour faire simple, on est là pour les faire grandir. Et les savoirs, leur finalité, c'est pas les savoirs pour les savoirs, tu vois. Les savoirs, ils sont un outil pour faire grandir les élèves. Hein, pour qu'ils soient plus autonomes, plus citoyens, qu'ils soient plus ambitieux pour eux-mêmes, qu'ils soient plus outillés pour poursuivre leurs études. Mais donc, tu vois, ce débat entre, j'allais dire les anciens et les modernes, hein, mais ce débat n'est pas toujours tranché. Est-ce qu'on le tranchera un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y aura sans doute une réflexion.
Ça avance. Et toujours pour conclure, et c'est à la fois un bon point, mais selon moi, un flanc pour être critiqué aussi. Dans cette séculaire de rentrée, je ne vois pas trop d'implication des parents. Donc d'une part, je trouve ça positif parce qu'on se focalise vraiment sur les enfants. Tu nous l'as rappelé par ailleurs, hein, c'est, oui. Et les enfants sont des citoyens et des personnes à part entière. Mais d'autre part, les parents aussi ont parfois besoin d'être éduqués, parfois besoin d'être accompagnés. Est-ce que ça voudrait dire donc que le lien entre les parents, les professeurs et les écoles, tout ça est vraiment laissé à la charge de chaque établissement?
Non, en fait, depuis 2016, à la réforme du collège de 2016, on est dans l'idée d'une forme de coéducation. C'est-à-dire que pour construire la réussite scolaire d'un élève, ça dépend aussi de la qualité du lien avec les parents. En revanche, il y a une forme de division du travail éducatif, c'est-à-dire qu'il faut que les parents nous fassent confiance sur le champ des savoirs savants, et en revanche, que sur le champ plus éducatif, on puisse travailler de concert. Tu vois, par exemple, on parlait de la question de la prévention du harcèlement, c'est clair que c'est un territoire partagé. On parlait de l'orientation, c'est bien sûr le territoire des familles. On parlait de l'éducation aux médias, ben, c'est aussi le territoire des familles. Donc, non, il y a vraiment une place pour les parents. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que chaque année, on organise des élections. Et c'est vraiment important que les parents votent pour leurs représentants parce que ça leur donne plus de poids. Et après, souvent, moi, ce que je constate, c'est que les parents, plus l'enfant grandit, plus il se retire un petit peu de la relation, oui. Tu vois. Mmh. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'au niveau du collège, on a vraiment besoin de leur présence. En revanche, comme je dis, il faut que ça se fasse sur la base d'un respect mutuel. On aura l'occasion peut-être de faire une émission sur les parents d'élèves, parce que quand on parle des parents d'élèves, ça ne veut rien dire. Il y a différentes catégories et postures. Mmh. Mais non, il y a une place pour les parents. Mais en même temps, l'école, ça reste l'école, c'est-à-dire que c'est un territoire de professionnels. La pédagogie, nous, on a un conseil pédagogique. Moi, à titre personnel, je ne souhaite pas que les parents soient présents au conseil pédagogique. Tu vois, mais si on avait l'équivalent d'un conseil éducatif, là, je trouve que les parents auraient leur place. Mais c'est un peu le cas, puisqu'on a une instance qui s'appelle le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, où là, des représentants des parents peuvent siéger. Et puis après, ils siègent aussi dans les lieux de décision au conseil d'administration.
Eh bien, chiche, on le met au pot commun, on consacrera une émission prochainement dans le carnet des correspondances pour ses parents d'élèves en particulier. C'est la rentrée, hein, et aujourd'hui, on s'est focalisé, hein, sur la circulaire de rentrée qu'ont reçu tous les établissements scolaires, hein, et puis les collèges en particulier, pour une école qui instruit, qui émancipe et qui protège. Le carnet de correspondances à retrouver en podcast sur cfmradio.fr et sur l'ENT aussi, hein, du collège Valsero de Corte-sur-Ciel. Quelquefois où les parents peuvent comme ça directement aller piocher quelques idées qui sont partagées par Jean-Marc Robin, le principal du collège Valsero de Cordes. Merci beaucoup Jean-Marc.
À bientôt Jack.
When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world. Where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground. solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so unkind. Hanging around on the edge of the world. Finally known.